Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ça n'était pas une promesse en l'air. Donald Trump s'était engagé à retirer les États-Unis du traité transpacifique une fois arrivé au pouvoir. Promesse tenue hier. Le président américain a signé l'acte de décès de cet accord de libre-échange qui visait pourtant à contenir les velléités commerciales de son grand adversaire, la Chine. Exit le TPP. Et ce n'est sans doute qu'un début. Donald Trump veut aussi revoir l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Il est hostile à celui moribond avec l'Union européenne, le TTIP. Et il menace de surtaxer les voitures allemandes, d'imposer des droits de douane exorbitants aux produits chinois. Le tout pour mieux protéger l'économie américaine et ses emplois. Au forum de Davos la semaine dernière, on ne parlait que de cette guerre commerciale sur le point d'advenir. D'autant que les États-Unis ne sont pas les seuls à faire le choix d'une approche plus agressive de leur politique économique. L'idée de Montesquieu d'un doux commerce, facteur de paix, ne semble donc plus très adaptée par les temps qui courent. Alors est-ce que le commerce, c'est la guerre ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Commencez par vous, Christian Rabulot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur et le directeur de l'école de guerre économique et vous avez publié au PUF, c'était en 2015, un manuel d'intelligence économique. Pour discuter avec vous, Corinne Vadecar, bonsoir.
Bonsoir.
Analyste senior en commerce international à l'Institut Friedland, qui est un centre de réflexion économique de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, centre de réflexion qui est tout récent, je crois qu'il a été créé en 2015 ou 2016.
Oui, 2016, effectivement.
2016. Et puis notre troisième invité, Sébastien Jean, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, vous dirigez le CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales, qui sort chaque année son édition consacrée à l'économie mondiale. C'est donc le dernier, l'économie mondiale 2017. C'est publié aux éditions La Découverte dans la collection Repères. Sébastien Jean, est-ce que, et c'est une question que je vais vous poser à tous les trois, vous faites aujourd'hui le constat d'un durcissement des échanges commerciaux à l'international ?
Incontestablement, un durcissement effectivement, même, j'irai plus loin, moi j'ai le sentiment en tout cas qu'on est en train de basculer dans une ère nouvelle et au fond qu'on est, ça marque la fin, non seulement de finalement l'après Seconde Guerre mondiale qui avait été marquée par cette co-construction d'institutions pour essayer de gérer les relations économiques internationales, une certaine coopération autour, et plus spécifiquement, à vrai dire, la deuxième partie de cette après Seconde Guerre mondiale qui a commencé à la chute du rideau de fer. À partir du début des années 90, on a eu vraiment une grande domination américaine sur les relations politiques internationales. On a eu également un progrès technique qui s'est, en particulier la technologie de l'information et de la communication, qui s'est développée de manière spectaculaire. La création de l'OMC. Et donc, c'était finalement un ordre économique international qui a été organisé principalement et mené par les États-Unis. Et puis aujourd'hui, voilà, on sent bien que, et c'est symptomatique que ce soit l'initiative des États-Unis, cet ordre se fissure et qu'on va devoir trouver d'autres façons de gérer ces relations économiques internationales.
Corinne Vadecar, vous faites le même constat ?
Oui, tout à fait. Je crois qu'on va effectivement vers un durcissement quand on regarde un peu l'histoire passée et l'histoire à venir. Autrefois, à partir du moment où les nations sont devenues mercantiles en Occident, eh bien, le commerce a été un outil d'influence et de puissance. C'était encore plus vrai ces 30 ou 50 dernières années, à partir du moment où les entreprises multinationales sont devenues des acteurs des relations internationales, des acteurs parfois plus puissants que les États. Aujourd'hui, à partir du moment où les moyens de baisser les coûts de transactions commerciales ne passent plus par l'abaissement des droits de douane, mais par des éléments tels que les normes, les standards, la convergence autour de cela, et on touche à des questions sensibles. Donc les tensions sont encore plus fortes. Et je pense que demain, on ira encore vers plus de tensions à mesure que des acteurs comme les plateformes numériques captent une grande partie de la valeur, ont besoin de l'échelle mondiale pour exister, et tout ça participe à un durcissement des relations commerciales.
Vous dites qu'on ne peut plus baisser les droits de douane parce qu'effectivement ils sont aujourd'hui très bas. En revanche, rien n'empêche, enfin a priori, sauf peut-être à sortir des règles de bonne conduite justement du commerce international, de les relever. C'est ce que d'ailleurs promet Donald Trump. Christian Rabulot, je vous ai pas demandé vous aussi votre constat général justement sur cette tension peut-être au niveau des relations commerciales dans le monde, tensions qui sont peut-être d'ailleurs d'autant plus sensibles et visible qu'elles suivent une période où on semblait plutôt être entré dans une période, alors là c'était plus politique économique, mais qui était celle de la fin de l'histoire, d'un monde dont on nous disait qu'il allait être totalement pacifié.
Ben, je crois en fait qu'on va être obligé de, comme ça a été dit, hein, de revoir un peu les grilles de lecture. On avait un peu trop focalisé notre vision du monde sur un résultat qui était celui de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en tout cas dans le monde occidental, une puissance dominante et les autres s'alignant finalement sur les règles qu'elle imposé plus ou moins discrètement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est dans un monde multipolaire et on voit très bien que pour les États-Unis, il y a un problème essentiel qui est que faire par rapport à la Chine. Pas simplement la Chine, pays agressif sur le plan économique, mais nouvelle puissance et on sent bien que la politique Trump, elle vit justement à changer de paradigme. Le nationalisme économique, tel que Trump est en train de le mettre en avant, s'appuie sur cette volonté de relancer un ancrage industriel territorial, ce qui était plus tellement le cas et plus tellement la priorité. On voit bien que Theresa May suit à sa manière, compte tenu de la situation de la Grande-Bretagne. Et on verra que sans doute d'autres pays vont développer, par rapport à ça, des relations de plus en plus bilatérales et de moins en moins multilatérales, alors que le monde est devenu multipolaire. C'est la contradiction.
C'est vrai que j'ai pas mentionné Theresa May, la première ministre britannique, qui a donc annoncé que le Brexit, ce serait un vrai Brexit, que le Royaume-Uni allait vraiment et radicalement quitter l'Union européenne en disant on veut continuer à coopérer, mais attention, si vous nous cherchez des noises, nous on saura aussi vous répondre de manière là aussi, ben, peut-être, je ne sais pas si ça peut être à la Trump, mais enfin en tout cas en jouant sur les différents leviers dont on dispose pour être dans une compétition qui serait vraiment une compétition acharnée avec l'Union européenne. Sébastien Jean.
Oui, ce qu'on voit, il me semble, aujourd'hui, c'est la difficulté à réformer les institutions de coopération internationale quand elles existent. Je veux dire par là que si on avait aujourd'hui à construire une nouvelle organisation mondiale du commerce, on ne le ferait pas avec les accords qu'on a actuellement. Pourquoi ? Parce que on le ferait à partir d'une situation où la Chine est le premier exportateur mondial. Or, maintenant, on hérite d'une situation dans laquelle, qui s'est construite dans, il y a de nombreuses années, donc la création de l'OMC par l'accord de Marrakech en 1994, à un moment où les pays émergents étaient encore relativement pauvres. Donc on leur accordait un statut associé qui était avec des contraintes relativement limitées. Et ce qu'on constate, c'est que quand il y a de gros changements qui nécessiteraient de faire évoluer le système, eh bien c'est très difficile. On le constate à l'OMC, on le constate au FMI. Hein, la réforme du FMI a accouché, enfin, pour faire une réforme qui était relativement marginale, qui était évidente dans sa légitimité. Les États-Unis l'ont bloqué pendant 5 ans. Donc, c'est plus facile. Et on le voit d'ailleurs dans le domaine commercial, c'est-à-dire les seuls domaines où on arrive encore un peu à avancer, c'est ceux où il n'y a pas trop d'héritage en fait de la période passée. Par exemple, sur les biens d'information, des technologies de l'information, les produits environnementaux, etc. Et partout où il y a une situation qui est relativement bien posée, il y a toujours quelqu'un qui a beaucoup à perdre, à changer, à sortir du statu quo, en l'occurrence notamment la Chine, sur les questions commerciales. Et donc ça bloque le changement.
Alors justement, à propos de la Chine, et avant de poursuivre la discussion, je voudrais vous faire écouter ce que disait le numéro 1 chinois. Il y a exactement une semaine, il est au Forum économique de Davos, Xi Jinping, qui se transforme finalement en défenseur, je ne sais pas si on peut dire défenseur du multilatéralisme, enfin en tout cas du multilatéralisme appliqué aux relations commerciales.
Face à une salle comble et acquise, le président chinois ne cite jamais le président élu des États-Unis, mais son discours semble une réponse à Donald Trump, qui veut mettre en cause les traités de libre-échange et ériger des barrières douanières. Le protectionnisme, c'est comme s'enfermer dans le noir, assure Xi Jinping. Très à l'aise, il multiplie les métaphores.
L'économie mondiale, elle est ce vaste océan auquel vous ne sauriez échapper. Toute tentative de retrancher les flux de capitaux, de technologies, de produits, d'industrie et de personnes entre économies et de canaliser les eaux et l'océan dans des lagunes isolées relève simplement de l'impossible.
Voilà, extrait d'un reportage diffusé la semaine dernière dans le journal de 18h France Culture. Reportage signé Marion Lourd. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Corinne Vatkar, Christian Rebulot, que la Chine, c'est peut-être le meilleur rempart à cette guerre commerciale qui semble poindre le bout de son nez, Corinne Vatkar?
Oui, probablement, parce que la Chine a besoin de mondialisation. Elle a pendant longtemps été ce qu'on appelle un passager clandestin dans les négociations commerciales à l'OMC, parce que finalement, elle attendait que les autres fassent les efforts de libéralisation et elle en bénéficiait a posteriori. Là, en l'occurrence, les déclarations de Trump ont un peu amené la Chine à sortir de sa tanière et à défendre le libre-échange, l'ouverture, la globalisation. Et ce besoin, elle l'a tant au niveau micro qu'au niveau macro. Ça s'exprime à travers, là aussi, l'émergence de champions nationaux qui investissent à l'étranger. Un chiffre rapide, en l'espace de 3 ans, les investissements des entreprises chinoises à l'étranger ont été multipliés par 4. Et puis, ça se traduit aussi au niveau macroéconomique avec la fameuse route de la soie, la nouvelle route de la soie, où la Chine essaye finalement, à travers deux routes, une route maritime et une route terrestre, d'avoir une influence et aussi d'avoir un soutien avec des marchés extérieurs pour ces entreprises et ces produits.
Christian Rabello.
Alors oui, mais enfin, faut pas oublier que la Chine, c'est un des pays les plus protectionnistes du monde. Enfin, bien entendu, elle le cache. C'est un jeu assez habile, mais les entreprises qui sont là-bas et qui essaient justement de s'implanter durablement constatent que les Chinois laissent pénétrer les entreprises étrangères selon ce qu'ils veulent faire pour en tirer un certain nombre d'atouts, notamment dans les fameux transferts de technologie. Quand l'Empire Murdoch a voulu aller en Chine, ça a été un blocage total après un sacré parcours du combattant et une très astucieuse démarche chinoise pour les bloquer. On voit bien ensuite que sur la nouvelle économie numérique, etc., les Chinois font très très attention à ne pas laisser pénétrer les fameux GAFA pour des logiques de puissance. Là, on est bien sur le lien très très proche entre une puissance et une économie de marché. Donc, je crois que le président chinois a beau jeu de défendre un discours sur le libre-échange, alors qu'en fait, il a dans sa main un enjeu de puissance très fort qui est l'accroissement de la Chine dans tous les domaines, et pas au bénéfice du monde occidental, on le sait bien, ni au bénéfice d'ailleurs d'autres acteurs d'économie émergente. Donc on est dans une relation très hypocrite derrière un discours de ce type.
Je vous interrogeais, Christian Arbulo, sur la question de la confrontation de la guerre commerciale, à laquelle vous répondez, la Chine finalement est protectionniste. Est-ce que ça veut dire que pour vous, à partir du moment où il y a du protectionnisme, on est dans une confrontation commerciale, et à l'inverse, est-ce qu'on pourrait dire que là où il y a du libre-échange, il y a forcément de la coopération, ou est-ce que ça n'est pas un peu plus compliqué que ça? Est-ce que la guerre commerciale, elle n'existe pas aussi dans un monde où les échanges sont absolument ouverts?
Moi, je crois que justement, il faut surtout pas, on parle de grille de lecture, il faut bien comprendre qu'on peut être très protectionniste et en même temps très libre-échangiste. C'est-à-dire quand un homme comme Macron fait l'opposition entre les deux termes, je pense qu'il a tout faux, dans le sens où c'est une vieille histoire. C'est-à-dire que si on regarde l'évolution du commerce mondial, on a toujours vu ce balancier-là. C'est-à-dire que les pays qui avaient intérêt, parce qu'ils en avaient la puissance, à conquérir des marchés par la voie de la colonisation ou d'autres moyens, ont toujours en même temps verrouillé leur marché intérieur d'une manière ou d'une autre. Et ce que Trump révèle dans la politique américaine, c'est finalement une revendication d'un système qui, pas à pas, depuis Reagan, mais même avant, était en partie verrouillé, mais très discrètement. C'est-à-dire Reagan a pris des mesures protectionnistes, Clinton, à sa manière, en a prises, mais en jouant sur un certain type de vocabulaire, c'est-à-dire que le protectionnisme américain durant les années Clinton, c'était de dénoncer les pratiques de concurrence déloyale de des partenaires dans les économies émergentes. Mais in fine, quand on examinait très clairement ce que faisaient les Américains, c'était de jouer sur les mots. C'est-à-dire qu'ils étaient, bien entendu, à la recherche de parts de marché dominantes dans telle ou telle zone du monde. Donc, il faut faire bien attention à ces nuances-là.
Corinne Vatker et Sébastien Jean, sur cette question d'un lien absolu entre guerre commerciale et protectionnisme, c'est-à-dire quand on fait du protectionnisme, on serait dans une confrontation commerciale et ça ne serait plus le cas en zone de libre-échange, disons.
Non, je crois qu'on n'est pas forcément dans cette configuration. D'abord, les États-Unis, effectivement, affichent à la fois une approche très multilatérale et puis sont probablement, enfin, n'ont rien à envier à la Chine en termes de protectionnisme. Je crois qu'en termes de mesures prises ces dernières années, ils arrivent au premier rang. Et puis ensuite, je crois qu'il faut pas être naïf. le commerce, c'est comme une pièce avec deux faces. Il y a effectivement dans le mot commerce, le mot concurrence, le mot compétition. Et la compétition, elle s'exerce au niveau des entreprises qui, depuis des années, ont toujours mis en œuvre des barrières à l'entrée. C'est les effets de taille, ce sont les innovations technologiques, mais c'est aussi les effets de marque, les effets d'enseigne, les brevets, tout ça constitue des barrières à l'entrée. Et c'est comme ça, finalement, qu'on se développe, qu'on se protège de la concurrence. Même chose à l'échelle des États qui, hier, érigeaient des barrières douanières, aujourd'hui, qui mettent en place des normes environnementales, parfois pour c'est une forme de protectionnisme déguisé. Et tout ça se fait. Alors après, c'est réglé au niveau de l'Organisation mondiale du commerce à travers le règlement des différends.
Oui, mais mettre des normes de protection, par exemple, des normes de protection sociale ou des normes de protection environnementale, ça n'est pas forcément quelque chose qui est fait de manière agressive. On peut aussi y voir avant tout une façon essayer de hisser vers le haut un certain nombre, justement, de conditions à l'exercice du commerce. C'est pas juste une pure protection un peu nationaliste de sa zone commerciale.
Non, tout à fait, oui. Mais du moment qu'on respecte les règles de l'OMC, voilà, ça se passe bien, ou ça se passe devant, voilà, les tribunaux. Ce que l'on peut souligner également, c'est que le commerce a quand même, même avec des pratiques protectionnistes, et ça a été le cas, par exemple, des pays d'Asie dans les années 80, les nouveaux pays industriels, ils ont exercé une forme de protectionnisme, mais à un moment, ils ont ouvert leur marché, etc. Et c'est quand même le commerce qui a permis de sortir de la pauvreté un certain nombre de pays, qui a permis d'être en stabilisation un petit peu politico-économique, parce que ce sont les pays qui sont bien ancrés dans la mondialisation, qui sont finalement à l'abri d'un certain nombre de conflits.
Sauf que manifestement, c'est plus trop la perception qui est celle des gouvernements et de ceux qui les élisent aujourd'hui, Sébastien Jean.
Oui, cela étant, je pense qu'on ne peut pas avoir une approche binaire du protectionnisme. Hein, ça a été un peu mentionné déjà, c'est-à-dire on n'est pas protectionniste ou libre-échangiste. Il y a plus de nuances, notamment parce qu'on se situe dans un cadre qui est défini par des accords internationaux, hein, ceux de l'OMC actuellement, qui consistent en des engagements que les pays prennent les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas du tout un cadre dans lequel on dirait « je vais vous aider, je vais être gentil avec vous et donc je ne vais pas faire de protection commerciale ». Non, c'est un échange, hein, c'est-à-dire je m'engage moi à ne pas à mettre des limites à ce que je vais faire en termes de protection commerciale et je vous demande de faire la même chose. Donc à partir de là, finalement, il y a deux façons d'être protectionniste. Il y a celle qui est, disons, un peu l'interprétation sur les règles. Je joue un peu avec les règles, j'essaie de les interpréter à mon avantage, et puis j'espère que les autres n'iront pas me chercher des noises, j'espère que ça passera relativement inaperçu. Et ça se fait tous les jours, évidemment, de beaucoup de façons différentes. Ce qui est assez différent avec le comportement de Donald Trump, et ce qui laisse présager de plus de tensions, c'est que lui, c'est pas du tout son approche. Il dit, écoutez, moi, les règles de l'OMC, si elles ne sont pas favorables aux États-Unis, j'en ai rien à faire. Dans ces cas-là, c'est qu'elles sont nulles et non avenues, et donc je ne les respecterai pas. Et donc, c'est une approche radicalement différente, où là, pour le coup, la réponse va être différente. C'est-à-dire que si quand on essaie de composer avec les règles, et bien les autres pays, bon, soit font des pressions informelles, disons, soit attaquent dans l'enceinte juridique du règlement des différends de l'OMC.
Donc si la grande différence, c'est quoi? C'est de le faire à visage découvert et peut-être aussi de le faire à l'égard de partenaires qui sont des partenaires importants. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les relations commerciales entre les États-Unis et, je sais pas, le Costa Rica, par exemple, un petit pays, les enjeux sont évidemment pas les mêmes et on peut se contenter des règles qui existent. Aujourd'hui, les États-Unis, ça ne va pas leur poser de problème. Avec l'Union européenne, avec la Chine, c'est peut-être plus compliqué, justement.
Je pense que la différence fondamentale, c'est que c'est fait, d'une part, par le pays qui est le leader et l'architecte du système commercial international, et c'est fait dans une attitude de dénigrement ostensible à l'égard de ce cadre-là. Or, ce n'est pas comme s'il y avait au-dessus un policier qui était capable d'imposer quoi que ce soit aux pays membres de l'OMC. Ce sont des États souverains, on ne peut rien leur imposer. Et donc, ça ne marche que par l'engagement réciproque que je décrivais à l'instant. Et donc, si celui qui est le leader dit, moi, les engagements, je m'assieds dessus, à ce moment-là, c'est tout le système qui peut perdre sa légitimité et s'effondrer d'une certaine façon.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Le commerce, c'est la guerre. C'est la question que nous posons ce soir à Sébastien Jean qui dirige le Centre d'études prospectives et d'informations internationales, à Corinne Vadkar, analyste senior en commerce international pour la CCI Paris-Île-de-France et à Christian Arbulot, fondateur et directeur de l'école de guerre économique. Alors, je reviens sur cette notion de guerre économique. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, Donald Trump, alors à travers ses décisions de sortir du traité transpacifique, de ne pas soutenir le traité de libre-échange avec l'Union européenne, bon, il y a plus grand monde qui le soutient aujourd'hui, et puis de vouloir remettre en cause l'accord ALENA nord-américain, et puis ces menaces de surtaxer les voitures allemandes, de surtaxer les produits chinois qui seraient importés aux États-Unis, est-ce qu'il pratique la guerre économique? Première question. Et deuxièmement, est-ce qu'il la pratique correctement? Est-ce que s'il était élève, imaginons, dans votre école de guerre économique, vous lui enseigneriez de poursuivre dans cette voie?
Alors, pas forcément. Je crois qu'on est, plus lucide sur les objectifs à atteindre. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même qu'il y a une gesticulation en termes de politique internationale. Trump use avec beaucoup de mots et à sa manière de communiquer. Mais ce que je note quand même, c'est que ce qui était relativement caché va devenir de plus en plus expressif et on va rebondir sur différents terrains. C'est-à-dire pour la Chine, par exemple, on le voit, il y a déjà une volonté d'aller chercher la Chine sur le terrain économique et en même temps sur le terrain politico-militaire dans la mer de Chine. C'est-à-dire qu'on va jouer sur plusieurs tableaux. Le problème pour les États-Unis de Trump, c'est très différent que par rapport au Japon de la fin des années 80. Rappelez-vous, c'est une puissance très conquérante. Et puis, il y a eu la crise financière. Le Japon a été brisé, littéralement dans son élan. Mais le Japon, il y avait des bases américaines. C'était l'allié par rapport à un monde qui sortait à peine de la guerre froide. Là, c'est plus du tout le cas. La Chine, c'est une dictature communiste pour certains, en tout cas pour beaucoup, en lecture pure. Les États-Unis, ça reste quand même une démocratie libérale et non des moindres. Et là, on voit bien qu'il y a des oppositions qui vont être beaucoup plus difficiles qu'auparavant. Et on sort du brouillard, de l'Eldorado chinois, de ce marché unique, du village planétaire, de la mondialisation des échanges, tel qu'on l'avait appris sur les bancs de l'école. Donc,
est-ce qu'on n'est pas justement, Christian Arbulot, en train de réapprécier ce que représente la compétition économique dans les questions géopolitiques? Est-ce qu'on n'avait pas fini par les sous-estimer?
Je crois, dans le sens où, juste deux indicateurs, l'Allemagne était notre premier partenaire commercial au début de la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois avait une croissance de 7% en moyenne à cette époque, donc tout le monde avait intérêt à ce que ça se passe bien. L'économie fonctionnait en tout cas dans ces zones-là. Et puis on a bien vu que on dérape rapidement sur autre chose. Là, on est dans un monde où ça risque d'être le problème, c'est-à-dire que la logique de puissance, au sens global du terme, et non pas au sens purement compartimenté, reprend ses droits. Et c'est le vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des affrontements de puissance dans ce monde multipolaire, Russie-États-Unis, Russie face aussi parfois à la Chine, ils ne sont pas forcément en coopération totale. Ici, on peut les prendre les uns après les autres, qui amènent à des fortes turbulences qui peuvent être de nature économique, géopolitique, militaire, voire sociétale.
Sébastien Jean, il peut y avoir une escalade de représailles économiques qui pourrait aussi se transformer en escalade sur d'autres terrains?
C'est pas exclu. Je trouve que le contraste est frappant par rapport aux phases qu'on a vécues précédemment. Je veux dire par là que avant la chute du rideau de fer, on a principalement utilisé le commerce, les accords commerciaux notamment, mais pas seulement, le commerce d'une façon générale, pour essayer de cimenter les alliances politiques. On le faisait par exemple, typiquement avec nos voisins, avec les anciennes colonies d'Afrique, et puis le commerce transatlantique et même le plan Marshall d'une certaine façon, il y avait de ça. Ensuite, après la chute du rideau de fer, on a eu cette illusion d'une fin de l'histoire où les États-Unis, notamment, ont eu tendance à utiliser leur politique étrangère à des fins économiques, au contraire. Hein, et typiquement, il y avait un National Security Council et Clinton a créé, au début des années 90, un National Economic Council. Donc, l'économie devenait un objectif stratégique en tant que tel, et non pas quelque chose qui était destiné à poursuivre un objectif politique. Et puis là, on entre dans une phase différente, il me semble, nouvelle, dans laquelle le commerce génère, crée des tensions politiques, au contraire. Donc, c'est effectivement quelque chose d'assez nouveau et qu'il va falloir apprendre à gérer. Hein. Donc, je voudrais pas donner l'impression, parce que j'ai dit précédemment, que la guerre commerciale, la confrontation, ou le pire est certain, pas du tout. Il y a vraiment, c'est avant tout l'incertitude hein, qui est vraiment la caractéristique d'aujourd'hui, mais il y a de grosses inquiétudes, c'est vrai.
C'est nouveau, Corinne Vatkar, parce que Trump, ou bien c'est nouveau aussi parce que Trump, disons, s'inscrit dans un mouvement qui est peut-être davantage un mouvement de fond, dont il serait, on va dire, l'illustration la plus spectaculaire aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Le fait que l'on se pose la question de savoir si le commerce est la guerre aujourd'hui, c'est assez symptomatique d'un ensemble de mutations à la fois conjoncturelles et structurelles. Alors Trump dit les mots parfois, oui, qui fâchent, et dit des choses de manière ouverte alors qu'on les disait de manière un peu polissée. Bon, tout n'est pas à prendre pour argent comptant. Maintenant, voilà, je dirais que le commerce, c'est l'expression moderne de la puissance. Et donc ça peut aller encore plus loin. Aujourd'hui, on est dans un moment charnière qui est le basculement un peu de l'économie traditionnelle dans l'économie numérique. Il y a aussi un basculement géographique vers l'Asie. Et tout ça génère un ensemble de crispations assez fortes où chacun cherche finalement sa place. Et donc au cœur de ces mutations, c'est la puissance des États qui est au cœur des batailles d'aujourd'hui.
Christian Arbelot.
Oui, je crois que, rappelez-vous, à une certaine époque, certains auteurs parlaient de l'obsolescence de la puissance. Bertrand Badi, pour le citer, je crois qu'on n'est plus du tout dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on voit très bien que si je prends les signes avant-coureurs du durcissement, c'est-à-dire la diminution de l'accès aux ressources, la diminution même des ressources, si on prend le continent africain et toutes les luttes d'influence qui se jouent au-delà des fonctionnements des États, si on prend le cas de la région des Grands Lacs, par exemple, où on voit qu'il y a là des enjeux majeurs pour l'accès aux ressources, l'accès à des choses essentielles pour faire fonctionner l'économie mondiale. Je suis désolé, c'est pas la libre concurrence qui régule ça. C'est des jeux d'influence d'État par le biais de la diplomatie, par le biais de tout un tas d'instruments, y compris parfois malheureusement de conflits militaires, locaux.
Ça pourrait être aussi des instruments de régulation où on considère que justement il y a des ressources qui sont des ressources communes et qu'il faut les partager au mieux. Bon, manifestement, ça ne fonctionne pas comme ça.
Ça serait plus que souhaitable. Ça serait plus que souhaitable, mais c'est le problème de l'OMC. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentative de régulation qui s'est bloquée à partir du moment notamment où des économies émergentes n'ont plus voulu jouer le jeu de l'économie dominante que représentait le monde occidental par le biais des États-Unis. Donc c'est un peu ça qui risque de poser problème aujourd'hui.
Sébastien Jean ?
Oui, je crois que la question c'est est-ce qu'on peut trouver des règles du jeu modernisées, mises à jour, sur lesquelles on puisse se mettre d'accord. Parce que on n'est jamais dans une situation où tout serait interdit, c'est-à-dire qu'on serait dans le libre-échange, et celle où tout est permis. Il y a le traumatisme, enfin, je veux dire, les années 30, hein, la crise des années 30, l'escalade protectionniste, et ses conséquences économiques catastrophiques, et puis politiques ensuite, montrent, je veux dire, ont servi de motivation, justement, à créer ce contexte institutionnel. Donc, la question aujourd'hui, c'est est-ce que on peut se mettre d'accord sur les règles. Alors on en a, mais à partir du moment où justement elles perdent leur légitimité, elles sont contestées par les leaders même du système, ça pose question. Et la question est de savoir quelles règles on peut trouver. Vous citiez dans votre introduction Montesquieu et Doux Commerce. Ce que disait aussi Montesquieu, c'est que il est heureux pour les hommes, en gros, quand leur passion leur inspire des pensées méchantes, d'être dans une situation où leurs intérêts leur commandent de ne pas le faire. Et donc la question, je crois, c'est dans quelle mesure est-ce que les intérêts, bien compris, des États vont leur faire trouver un terrain d'entente pour limiter ce qu'ils seraient tentés de faire en termes de représailles parce que ce serait trop coûteux économiquement.
Et bien peut-être que les intérêts bien compris des États, Corinne Vatkar, consisteraient à leur rappeler qu'il y a une notion qui est importante et qu'il est de plus en plus depuis qu'on est entré dans cette phase de mondialisation, qui est celle de la chaîne de valeur. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et en quoi ça pourrait être quelque chose qui permettrait, a priori, d'atténuer, on va dire, cette compétition et cette agressivité commerciale.
La chaîne de valeur, ça correspond en quelque sorte à un réseau de production internationale. C'est-à-dire que les entreprises, à la fin des années 80, ont décidé de faire produire à l'étranger, dans les pays à faible coût, le plus souvent en Chine, une partie des intrants de votre smartphone ou d'un avion, etc. Et ça, ça a correspondu à une phase de 25 ans, au cours desquelles, les économies, les entreprises sont devenues très, très interdépendantes. Et ça, finalement,
par exemple, alors, pour rester sur l'exemple du smartphone, mon smartphone, il est très international parce que ses composants viennent de différents pays. Ceux qui l'ont assemblé ne sont pas forcément ceux qui ont produit ces composants. Et puis ceux qui vont le vendre ne sont pas non plus les mêmes. Enfin, c'est ça ?
C'est-à-dire que voilà, on part d'une puce électronique. Après, on ajoute un autre intrant qui passe la frontière. Ces composants passent une nouvelle frontière et reçoivent une autre application. Que sais-je, et tout ça est assemblé dans d'autres pays. Tout ça pour dire que voilà, on a une forte interdépendance entre les économies qui a joué un peu le rôle de garde-fou en quelque sorte. Aujourd'hui, on a une stabilisation de ce déploiement des chaînes de valeur mondiales. Alors, elles se déplacent dans d'autres régions, c'est plutôt en Chine qu'en Bangladesh ou en Inde pour les industries textiles ou au Vietnam pour les composants électroniques. Mais aujourd'hui, ça est en recul et du coup, on a aussi un recul du commerce international. Et finalement, on a tendance à penser que c'est le protectionnisme était la cause du recul du commerce international, alors que c'est un peu l'effet contraire. C'est à cause d'un gâteau mondial qui est de plus en plus petit qu'on a des comportements protectionnistes. Et que là, les questions de gouvernance dont parlait Sébastien sont absolument importantes. Et on paye, à mon sens, trois phénomènes aujourd'hui, qui est la baisse du commerce international dont on a mis du temps à comprendre le sens, l'absence de gouvernance à l'échelle mondiale parce que voilà, on a un rapport de puissance et ensuite, l'absence d'avancée au niveau multilatéral sur un ensemble de dossiers, que ce soit à l'OMC ou ailleurs.
Christian Arbulot et Sébastien Jean, vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, l'interdépendance des économies est peut-être un moins bon garde-fou qu'il ne l'était autrefois parce que plutôt en diminution, Christian Arbulot ?
Oui, parce que le gâteau devient, hélas, trop petit par rapport aux appétits, pour prendre cette métaphore. Et ça crée donc des crispations qui risquent malheureusement de s'accélérer.
Oui, mais mon smartphone, il continue d'être produit dans différents coins de la planète.
Bien sûr, sans aucun problème. De même qu'en Afrique, vous pourrez avoir accès à la 4G dans un certain nombre de pays suite à des technologies chinoises, par exemple. Mais ça ne change pas le fond du problème. Le problème, c'est qu'on voit bien que le consumérisme, parce qu'il y a quand même quelque part un rouleau compresseur qui allait dans le rôle de l'apaisement d'une certaine manière des populations, c'est quelque chose qui est en train de se crisper par tout un tas de phénomènes que vous traitez dans d'autres émissions d'ailleurs. Et les limites du consumérisme, c'est je pense complémentaire à l'accentuation des processus de puissance, parce que la puissance s'exprime souvent par des logiques de contrainte, pas simplement parce qu'un fou ou qu'un homme ambitieux où une femme, suivant ses pas, cherche à conquérir le monde. C'est plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, je pense que le problème, c'est qu'on est à la fois dans les réductions d'accès à des ressources essentielles, on est dans un gâteau de la richesse mondiale qui ne gonfle pas dans les espérances qu'on avait vues à travers l'Eldorado chinois, voire d'autres, et en plus sur des contradictions qui sont de plus en plus liées au détricotage des ensembles dont on a parlé en début d'émission, ce qui crée, hélas, des espaces pour l'exacerbation d'un certain nombre de rapports de force. Le problème, il est là. Et si je rajoute en plus le fait qu'on a un monde matériel et un monde immatériel, ce monde où il y a encore beaucoup de capacités de mouvement, ça ne fait que renforcer cette logique.
Sébastien Jean ?
Oui, moi il me semble que ces tensions essentiellement elles sont en combinaison de deux facteurs, c'est-à-dire l'aggravation des tensions causées par la mondialisation et en même temps le ralentissement des gains qui en sont issus. Les tensions, on voit bien toutes les interrogations, toutes les inquiétudes sur les conséquences sociales, environnementales, fiscales de ce mouvement de mondialisation et la façon dont elles jouent dans le jeu politique. Sur le ralentissement, il faut se remémorer la façon dont on voyait cette mondialisation au début des années 2000. Il fallait pour toutes les entreprises françaises aller en Chine parce que c'était l'Eldorado de la croissance. Hein. Et donc il y avait vraiment, c'était l'horizon indépassable de la croissance. Aujourd'hui, il n'y a plus cette croissance. Le commerce mondial n'augmente plus depuis 2 ans, plus du tout. Les importations chinoises sont 10% inférieures à ce qu'elles étaient il y a 2 ans, en volume. Hein, c'est même pas un effet de prix. Donc, disons, cet effet de motivation par la croissance a disparu. Et du coup, on est dans un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si je veux faire des gains, je dois les prendre au détriment de mon voisin. Ça change complètement, il me semble, l'approche politique qu'on a de la question de l'ouverture internationale et de la mondialisation.
Il y a peut-être aussi un autre phénomène dont on parlait hier dans l'émission qu'on consacrait au travail, qui est celui de la double phénomène de l'automatisation et de la numérisation. C'est-à-dire, est-ce que ce ne sont pas des technologies, des progrès technologiques qui permettent aujourd'hui au pays d'être beaucoup plus autonome, peut-être de procéder à des relocalisations de leurs industries, et donc justement de pouvoir se permettre d'être un peu plus agressif, disons, commercialement à l'égard de partenaires qui sont moins vitaux pour eux, Sébastien Jean.
Oui, c'est, je pense que c'est un phénomène qui commence à poindre, même s'il y a un effet de mode qui a laissé penser que la relocalisation, le reshoring, comme disent les Américains, était un phénomène important. À mon sens, pour l'instant, ça ne l'est pas, mais c'est une perspective réelle. Dans le même temps, il est important dans tous ces débats, notamment sur les inégalités de revenus, on a toujours beaucoup de mal à distinguer le commerce international, l'effet du progrès technique et du commerce international. Et au fond, ayant moi-même pas mal travaillé là-dessus, la principale conclusion que j'en tire, c'est que les deux sont très liés. Et notamment, le commerce international est souvent un accélérateur du progrès technique. Hein, donc, les deux vont vraiment de concert. Et d'ailleurs, souvent, une partie de ces réactions face à la mondialisation, c'est une réaction face à des évolutions qui sont jugées trop rapides, trop violentes. Hein, voilà. Et donc, maintenant, aujourd'hui, effectivement, la disponibilité d'usines potentiellement plus petites, plus flexibles, avec des robots plus polyvalents, donne la possibilité à des entreprises occidentales de rapatrier une partie de leur processus de production chez eux, dans les pays développés. Voilà. Mais pour l'instant, ça reste relativement embryonnaire quand même. Il faut...
Corinne Vatkar.
Oui, je rejoins en partie Sébastien sur cette question. Pour autant, je serais plus nuancée. C'est vrai qu'il y a peut-être des chances de se réapproprier des processus industriels, des savoir-faire industriels, etc. Et c'est l'espoir que qu'a l'Amérique du président Trump et d'autres économies. Pour autant, il faut comprendre que aussi l'industrie d'aujourd'hui et de demain, elle change complètement. C'est une industrie qui offre des services, des solutions, avant d'offrir des biens matériels. Et donc, ce changement de modèle est extrêmement impactant. La deuxième chose qu'on observe et qui me laisse à penser que finalement, on est aussi un tournant vers une autre forme de commerce, les échanges de biens diminuent, effectivement, depuis de nombreuses années. Mais à contrario, les échanges de services augmentent progressivement. Je crois qu'en 2014-2015, la progression était de l'ordre de 5%, ce qui est quand même assez correct. Et surtout, le commerce des données explose considérablement. Par exemple, je vais reprendre l'exemple du smartphone, quand quelqu'un achète un smartphone, eh bien, durant la durée de vie de ce smartphone, on considère qu'il achète autant d'applications, pour le même volume, durant son usage. Et ça, ce sont à la fois des services et des données.
Christian Arbulot, on est presque au terme de cette émission. J'ai une toute dernière question à vous poser. Je reprends le titre de notre émission ce soir. Est-ce que le commerce, c'est la guerre? Qu'on aurait pu inverser? Est-ce que la guerre, c'est du commerce? Manifestement, pour la France, les exportations d'armes aujourd'hui, c'est une force et c'est une manifestation de ce que représente aussi la puissance française dans le monde.
Oui, à condition d'avoir des stratégies pas simplement dans le domaine de l'armement, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui m'inquiète pour l'instant...
Il ne faut pas que le seul ministre du commerce extérieur, ça soit Jean-Yves Le Drian.
Même s'il fait bien son travail. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que dans le débat politique à l'aube des présidentielles, j'entends pas beaucoup parler de stratégie pour développer un enrichissement de secteurs économiques en France qui sortent du précaré classique tel que vous le citez. Et je pense qu'il faut pas oublier un homme dans ce débat qui, à mon avis, reprend sa modernité, c'est Fernand Braudel. Puisque Fernand Braudel dissociait bien les logiques de territoire et d'économie de marché, il parlait bien de deux temporalités. Là, on est en train, par le peuple et non plus par le souverain, de découvrir que le territoire est un sujet prépondérant, et on le voit dans les jeux électoraux récents, et avec les conséquences que ça peut induire sur un certain nombre de décisions politiques.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci. Christian Arbulot, Sébastien Jean et Corinne Vatkar. Les références bibliographiques des uns et des autres, c'est sur notre site internet franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. J'ai oublié de citer votre ouvrage en début d'émission, Corinne Vatkar, « Mutation des chaînes de valeur mondiale, quelle stratégie des entreprises ?» C'est publié par la CCI Île-de-France. C'est pour ça que j'avais trouvé cette notion de chaîne de valeur. Ça ne m'était pas venu comme ça, totalement spontanément. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richet, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Emmanuel Morse d'Incan. Demain, jusqu'où pousser le principe de prévention? Nous interrogerons notamment ces nombreuses campagnes qu'on entend juste avant du Grain à Moudre sur la grippe, sur le fait aussi que quand il fait froid, il est mieux de sortir couvert que découvert. Mais ça, ce sera demain, tout de suite, enfin dans un instant, ping-pong avec Mathilde Serrel et Martin Kienet-Haine qui vont nous parler des frères Karamazov et de l'opéra Orfeo. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres.